et Cécile Bideau nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour. Extinction des feux à partir de ce soir en Martinique et à La Réunion. Les deux îles sont reconfinées pour permettre aux soignants de faire face à la quatrième vague de Covid-19 comme un tsunami qui déferle sur les hôpitaux. Témoignage d'une infirmière épuisée. Comment faire si vous aviez réservé des vacances en Outre-mer cet été? Les remboursements sont-ils possibles? Réponse dans ce journal. Un quart de siècle après la fin de la guerre en Bosnie, il est désormais interdit de nier le génocide de Srebrenica qui a fait 8000 morts. La mesure imposée par la communauté internationale provoque la colère des nationalistes. Nous verrons pourquoi. Dans ce journal, nous revenons sur l'affaire de l'imam de Saint-Chamond dans la Loire. Gérald Darmanin a demandé son exclusion après un prêche jugé sexiste. Mais le ministre de l'Intérieur a peut-être tweeté un peu trop vite. Et puis nous allons bien sûr à Tokyo pour les JO. Nous entendrons le colosse tombé de son piédestal, Teddy Riner, médaille de bronze. Le bronze aussi pour Roman Dico. Les filles portent haut les couleurs du judo français.
France Inter.
On commence avec une sueur froide intersidérale. Lors de l'arrimage du module russe Nauka à la Station Spatiale Internationale hier après-midi, les moteurs de l'engin se sont allumés pour une raison encore inexpliquée. L'ISS a alors basculé à 45 degrés. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Spécialiste sciences de France Inter. Alors ça a dû tanguer hein, à l'intérieur pour Thomas Pesquet et ses coéquipiers.
Eh bien pas tant que ça en fait. A priori ce n'est que s'ils regardaient par le hublot qu'ils ont pu se rendre compte que la vue changeait considérablement. Ce qui s'est passé, c'est une rotation de 45 degrés de l'ISS sur son axe. Elle n'a pas perdu d'altitude, elle n'a pas dévié de sa trajectoire, mais elle a tourné. Ça s'est passé après un accostage délicat où les deux cosmonautes russes ont dû reprendre le pilotage manuellement. On les entend ici échanger avec le centre de contrôle à Moscou et Houston. Voilà, ça n'était pas un accrochage facile. On ignore pour l'instant ce qui a provoquer ce réallumage. Le module Nauka est-il déjà vétuste? Véritable arlésienne depuis 2007, date initiale de son lancement, ce module arrive avec 14 ans de retard. En 2013, il a connu des problèmes d'étanchéité sur les valves dans le système de propulsion. Puis en 2015, la date de garantie de ses moteurs a été dépassée. Bref, il est enfin là et la NASA se voulait rassurante ce matin.
L'équipage n'a jamais été en danger. L'équipe de vol, ici au centre de contrôle, a immédiatement été mise au courant de la situation. L'équipage a mis en place les procédures de rétablissement pour récupérer l'orientation. Le vaisseau cargo Progress 78 a été allumé par l'équipe de contrôle russe qui a réagi très vite.
Car dans ces cas-là, la contre-mesure consiste à exercer une poussée dans l'autre sens sur la station. On fait appel à ce fameux vaisseau cargo Progress, accroché en permanence à l'ISS, dont on allume les moteurs. Finalement, selon les chefs de vol de la NASA, c'était une heure vraiment excitante pour les astronautes formés à tout type de situation extrême, une promenade de santé. Ce midi, ils sont surtout ravis d'avoir une pièce en plus à leur disposition, 70 mètres cubes.
Merci Sophie Becherel. Je rappelle votre rendez-vous hebdomadaire avec Thomas Pesquet. Mission Alpha, c'est demain à 13h15. C'est un signe qui ne trompe pas et qui montre que la quatrième vague de Covid-19 est bien là. Demain, trois malades vont être transférés de Fort-de-France à Paris par un vol médicalisé. Le système de santé martiniquais commence à être saturé. 180 malades sont hospitalisés, dont 28 en réanimation. Audrey, infirmière au CHU de Martinique, est déjà épuisée.
La fatigue se fait sentir. À chaque fois qu'il y a une vague qui repart, à chaque fois le travail est monstre. Ce que j'espère, c'est que ça va redescendre. Parce que si ça continue à être comme ça, on ne va pas tenir longtemps. Ça, c'est sûr. Sur une demi-journée de travail, on n'a pas trop le temps de se poser, quoi. On prend un peu le temps de, quand même d'aller faire pipi, des fois de manger un morceau quand on peut, mais il y a des fois on peut pas. On a toujours l'impression que c'est toujours les mêmes qui finalement sont un peu punis. C'est-à-dire que bah, nous on continue à travailler, on nous sucre nos congés, on nous fait revenir sur nos jours de repos. On a eu pas mal d'arrêts récemment aussi, parce que des gens pour X raisons, mais je pense qu'il y a de l'épuisement aussi, physique et mental. Ça aussi, c'est pas simple.
Témoignage d'une infirmière recueillie par Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Inter à Fort-de-France. La Martinique où le couvre-feu entre en vigueur ce soir à 19h. Dès demain, c'est confinement 24 heures sur 24 avec une interdiction de se déplacer à plus de 10 km de chez soi, sauf motif impérieux. Les restaurants et les bars ferment leurs portes. Les mêmes mesures sont mises en œuvre ce week-end également sur l'île de la Réunion. En Guadeloupe, seul le couvre-feu est pour l'instant imposé. Ces départements d'outre-mer sont des destinations destinations touristiques en cette période estivale. Alors si vous faites partie de ceux qui avaient prévu, rêvé d'y passer vos vacances, comment faire pour annuler sans y laisser trop de plumes? Réponse de Marianne Naquet.
Si vous avez réservé vous-même directement une location ou un hôtel, eh bien les hébergeurs ne sont pas obligés de vous rembourser. Didier Arino, directeur du cabinet de conseil ProTourisme.
Le code du tourisme n'impose pas des conditions de remboursement automatiques pour ceux qui ont réservé de leur propre chef. Ils dépendent des conditions d'annulation et si l'hébergeur ne veut pas les rembourser, il n'a aucune obligation de les rembourser tant que la destination n'est pas fermée aux voyageurs.
Deuxième cas de figure, pour les séjours réservés par une agence de voyage, vous avez davantage de chances d'être remboursé, indique Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage qui regroupe les agences.
Ceux qui vont pour les vacances et qui ont acheté leur voyage dans une agence de voyage seront remboursés de leurs vacances parce que le confinement n'est pas compatible avec l'idée même de vacances.
Dans les faits, ça reste du cas par cas, précise l'avocate Emmanuelle Liop, spécialiste en tourisme.
Tout dépend de ce qu'elles ont vendu. L'agence de voyage s'engage uniquement à ce qui est compris dans son contrat, dans la vente. Si l'agence de voyage a vendu un hôtel, l'hôtel est ouvert. Dans ces cas-là, on n'a pas d'obligation d'annulation du contrat et de remboursement.
En revanche, dans une démarche commerciale, les grandes compagnies aériennes qui desservent les Antilles proposent le remboursement ou le report à quelques jours, voire jusqu'à la veille du départ.
Invité de France Inter ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet que les départements d'outre-mer qui font l'objet de ces nouvelles restrictions sanitaires bénéficieront d'aides renforcées. Son interview est à retrouver en vidéo sur le site internet de France Inter. Le gouvernement qui donne des précisions sur la rentrée des classes pour les élèves de 6e, il y avait une incertitude car la règle est dictée à partir de septembre dans les collèges comme dans les lycées, c'est de renvoyer chez eux les non vaccinés s'il y a un cas de Covid dans la classe. Mais en 6e, on a parfois moins de 12 ans et on n'est pas éligible à la vaccination. Le ministère de l'Éducation nationale précise que dans ce cas, la classe entière fermera comme dans les écoles primaires. François Asselineau est positif au Covid. Le président de l'Union populaire républicaine l'annonce lui-même dans une vidéo ce midi. Il ne pourra donc pas participer à la manifestation contre le pass sanitaire demain comme il l'avait prévu. François Asselineau, anti-vaccin et anti-système, explique s'être procuré de l'hydroxychloroquine fabriquée en Chine pour se soigner. C'est le moment des ajustements pour vos impôts sur le revenu. Pour certains, c'est la douloureuse. Pour d'autres, la bonne surprise d'un versement sur le compte en banque. Cela s'explique notamment par le décalage entre ce que l'on déclare, les revenus de 2020, et ce que l'on a réellement gagné cette année. L'administration fiscale va d'un côté rembourser 10 milliards et de l'autre en récupérer 16, Delphine Simon.
C'est vrai, mais ça n'a rien d'étonnant. Selon le ministère des Comptes publics, comme tous les ans, il y a des ajustements. Les contribuables commencent début août à recevoir leur avis d'imposition papier. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, cet avis, il est déjà en ligne dans votre espace particulier sur le site impots.gouv. Alors dans 4 cas sur 10, il n'y a tout simplement rien à faire. La déclaration automatique tombe juste. Pour un tiers des contribuables, bonne nouvelle, ils vont recevoir dans les prochaines semaines un chèque ou un virement bancaire. Ceux-là ont dépensé plus en 2020, par exemple, pour faire garder leur enfant, mais aussi en cas de naissance ou de licenciement. Leur situation fiscale change et ils ont tardé à la déclarer. L'État va donc leur rembourser le trop perçu ou le reliquat de crédit et de réduction d'impôt. À l'inverse, si vous n'avez plus de nounou, votre avance de crédit d'impôt de janvier était sans doute trop élevé, il va falloir la rembourser. De même, vos impôts augmentent en cas de départ à la retraite ou si votre enfant vole désormais de ses propres ailes. Tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur le site des impôts ou encore préfère payer la note en fin d'année. Dans ce cas, la somme due au fisc sera prélevée directement sur leur compte bancaire entre septembre et décembre en une ou en plusieurs fois.
Delphine Simon du service économie de France Inter. La croissance est plus soutenue que prévu au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut augmente de 0,9% malgré la crise sanitaire. L'objectif de 6% de croissance cette année reste envisageable. L'allocation de rentrée scolaire sera versée dans une quinzaine de jours, le 17 août, à 3 millions de familles. Une aide de 3 à 400 euros par enfant.
France Inter, le journal de 13h. Cécile Bideau.
Il y a 25 ans s'achevait la guerre en ex-Yougoslavie et aujourd'hui, en Bosnie-Herzégovine, il est interdit de nier le génocide de Srebrenica. Le négationnisme est désormais puni de 6 mois à 5 ans de prison. La décision vient d'être imposée par le haut représentant de la communauté internationale qui administre le pays depuis la fin du conflit et elle provoque la colère des nationalistes, Claude Guibal.
Pour les nationalistes serbes de Bosnie, le génocide de Srebrenica, ce massacre de 8000 hommes et adolescents par les forces serbes en 1995, n'est qu'un mythe, des cercueils vides sur lesquels on a juste mis un nom, ironise même Milorad Dadic, leur chef politique. Il y a une semaine, la décision de Valentin Ćko, chargé par les Nations Unies d'administrer la Bosnie, a déclenché la rage des nationalistes serbes. Ils ont annoncé le boycott des institutions politiques centrales, plongeant le pays dans la paralysie. Valentin Ćko a pris cette décision quelques jours à peine avant de terminer son mandat à ce poste de haut représentant, poste que la Russie, vieille alliée des Serbes de Bosnie, veut faire fermer. Plusieurs fois, dit-il, il a tenté de faire voter cette loi, mais en vain, raison pour laquelle il a eu recours à ses pouvoirs discrétionnaires. La popularité des chefs de guerre, comme Ratko Mladic ou Radovan Karadzic, considérés comme des héros, l'inquiète. Une popularité qui n'a fait que croître après la confirmation en appel ces dernières années de leur peine à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité. La guerre de Bosnie a fait plus de 100 000 morts, c'était il y a 26 ans, au cœur de l'Europe.
À Hong Kong, la première condamnation d'un opposant au régime chinois a été prononcée au nom de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. 9 ans de prison pour un homme de 24 ans qui avait participé à une manifestation. Près de Saint-Étienne, 10 jours après les faits, la polémique ne retombe pas à la mosquée de Saint-Chamond. Lors de son prêche de l'Aïd, un imam a cité un extrait du Coran exhortant les femmes musulmanes à obéir à leurs époux. Une élue du Rassemblement national s'est indignée sur les réseaux sociaux et sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réclamé que l'imam soit suspendu. Des fidèles lancent une pétition de soutien aux religieux au profil modéré et progressiste. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
On se demande donc ce midi si Gérald Darmanin n'est pas allé trop vite.
Oui, et pour bien comprendre, il faut donc remonter au mardi 20 juillet, c'est la fête de l'Aïd. Le prêche de l'imam de Saint-Chamond est retransmis sur Internet. Une élue municipale Rassemblement National, vous le disiez, isole un extrait 22 secondes sur 40 minutes et le diffuse. 2 jours après, le ministre de l'Intérieur demande à la préfète de convoquer l'association musulmane qui gère la mosquée. L'imam est écarté, suspendu, mais pour les fidèles, c'est incompréhensible. Ce Comorien a un profil plutôt modéré, progressiste. Une pétition est donc lancé pour le soutenir. Le conseil départemental du culte musulman dans la Loire dénonce un acharnement injustifié pour son président Salim Adougjil. L'imam ne faisait que citer un texte religieux.
C'est une citation de la parole du prophète qui peut être dite par n'importe quel imam. Il n'y a ni incitation à la haine, ni une diminution de la valeur de la femme. Et moi, ce qui me choque, c'est l'ingérence aujourd'hui de l'État dans le discours religieux de l'imam. C'est cette rapidité du ministère de l'Intérieur, sans investigation, on est purement dans le clientélisme pour les prochaines élections présidentielles.
Et l'association musulmane dit n'avoir reçu aucun courrier officiel de l'État. Son imam est suspendu, mais toujours en contrat de travail, en CDI. Il n'a pas souhaité nous répondre de façon enregistrée ce matin, mais il insiste sur ses positions ouvertes, les cours mixtes qu'il donne à la mosquée, le fait qu'il encourage les filles à faire des études. De leur côté, la préfecture et le ministère de l'Intérieur n'ont pas répondu à nos sollicitations.
Merci Rémi Brancato. L'homme qui a percuté la terrasse d'un café de Paris avec sa voiture hier soir était connu de la justice pour des délits routiers. Il portait un bracelet électronique. Vers 22h30, dans le 17e arrondissement, il a perdu le contrôle, percuté les clients attablés. Une femme est morte et 5 personnes ont été blessées. Le chauffard est lui aussi blessé et hospitalisé. Son passager est toujours recherché par la police. Au JO de Tokyo, le dieu du judo perd sa place au sommet du Mont Olympe. Teddy Riner échoue dans sa quête d'une 3e médaille d'or. Le Français a été battu dès les quarts de finale chez les plus de 100 kilos. Repêché ensuite, il parvient à décrocher le bronze. Alors bien sûr, on attendait mieux, hein, mais à 32 ans et avec une blessure au genou, Teddy Riner avait quand même le sourire ce matin.
Je suis très touché forcément. Je reviens de très loin moi, je reviens de très très loin. Le travail que j'ai accompli, tout ce que j'ai mis en œuvre pour arriver ici dans les meilleures conditions, la préparation qui a été très difficile. Donc ouais, je suis très très content de repartir avec une médaille de bronze et d'accentuer un peu plus mon palmarès. 4 médailles olympiques sur 4 participations, c'est pas rien. C'est pas passé pour l'or, manque de bol, mais en tout cas, ouais, le bronze, et je suis content. J'ai pas envie de mettre sur ma blessure. Certes, ça a été chiant de s'entraîner pendant cette préparation, mais voilà, je suis super content de pouvoir de pouvoir repartir avec une médaille de bronze.
Teddy Riner, content au micro de Xavier Monferrand, envoyé spécial de France Inter à Tokyo. Bonjour Stéphanie Mora.
Bonjour Cécile.
Et pourtant, on l'a d'abord vu très en colère ce matin après sa défaite.
Oui, il a quitté le tatami après son quart de finale perdu contre le numéro 1 mondial, le visage fermé, presque un peu déboussolé, surpris. Mais effectivement, le match de repêchage, le combat de repêchage, il était encore un peu dans cet état d'esprit, presque de la tristesse ou alors un peu blasé. En tout cas, sans joie, ça c'est sûr, et ce n'est pas un visage que l'on a l'habitude de voir chez le Guadeloupéen. Il lui aura fallu finalement passer ce cap du repêchage pour ensuite le voir retrouver le sourire, comme il le racontait face au japonais Arasawa. Il y a forcément de la déception parce que son pari, c'était après 2020 et sa première défaite en 10 ans, c'était de reconquérir ce titre qu'il possédait depuis 2 Olympiades. Ce pari a été manqué, mais comme il l'a fait signe avec les doigts très vite devant les photographes au moment de son combat réussi, il a quand même gagné 4 médailles en 4 Olympiades d'affilée, et ce n'est pas rien dans le palmarès du judo français et mondial.
Alors demain, ce sera notre dernier rendez-vous avec le judo, et pour la première fois au JO, une épreuve par équipe, des équipes mixtes. Stéphanie, on peut le dire, ce sont les judokates françaises qui impressionnent cette année.
Comme elles impressionnent depuis plusieurs années, après sur 7 médailles raflées, on va quand même garder ce chiffre en tête, c'est la moitié de ce que la délégation française a ramené sur cette première semaine des Jeux. Il y en a 5 qui ont été remportées par les filles. On le sait, l'équipe de France féminine est très forte. L'équipe de France masculine, derrière Teddy Riner, a un petit peu plus de mal. Elle est plus souvent sur le podium pour le bronze que pour d'autres médailles. On nous dit du côté de la Fédération française de judo que ça va changer, que les juniors sont en train de monter, que Paris 2024 devrait nous permettre de découvrir d'autres visages. En attendant, effectivement, sur les 6 médailles escomptées par le président de la Fédération de judo, il en escompté 3 en or. On n'en a qu'une, celle de Clarisse Agbenienou. Mais pour le reste, on a quand même 2 vice-championnes olympiques. C'est pas mal.
Et on rappelle la médaille de bronze pour Romane Dicot ce matin. Quelques déceptions françaises à noter. En kayak, on espérait une médaille pour Boris Neveu. Il termine 7. En BMX, il y avait 4 coureurs en finale. Personne ne monte sur le podium. En escrime, les épéistes champions olympiques il y a 5 ans ont été éliminés en quart de finale. En basket, les Français sont toujours en course pour les quarts après leur victoire sur le Nigeria. Les handballeurs sont bien partis pour être premiers de leur groupe. Ils ont battu l'Espagne. Pour son retour dans le grand bain de la natation, Florent Manaudou se qualifie haut la main pour la demi-finale du 50 mètres nage libre. Il arrive deuxième. Son compatriote Maxime Grousset est également qualifié. La surprise de ce matin nous vient du tennis. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été éliminé en demi-finale par Alexander Zverev en 3 manches. La discipline reine des JO, l'athlétisme a débuté et on a déjà repéré le chrono de l'ivoirienne Marie-Josée Talou sur 100 mètres lors des séries, 10 secondes 78. Patience, c'est le mot du jour sur les routes de France. La journée de demain est classée noire dans le sens des départs. C'est le fameux week-end de chassé-croisé des vacanciers. En Dordogne, les Anglais recommencent à débarquer. Avec la fin de l'isolement obligatoire au retour de l'autre côté de la Manche, les Britanniques reprennent leur quartier d'été dans les résidences secondaires. Reportage de Jeanne de Butler.
Ils attendaient ce moment depuis plus d'un an. Retrouver pour un mois la maison de vacances quittée l'été dernier, juste avant le début des restrictions en Angleterre. Raphaël, 9 ans, sourit jusqu'aux oreilles. En un an, rien n'a changé.
Je suis super content. Je n'étais pas venue pendant un an, donc c'était un peu la surprise. Mais c'est exactement pareil que quand je l'avais laissé. Sauf pour l'herbe qui a énormément poussé.
Il faut maintenant rouvrir les volets, vider les valises et tout nettoyer. À cause de la crise sanitaire, Louisa et sa famille n'ont pas pu revenir autant qu'ils l'auraient voulu.
Pendant plusieurs années, on venait à Pâques pendant les vacances. Les vacances scolaires, les vacances d'été. Donc pour nous, la France fait partie de notre vie. Et d'un coup, on ne pouvait plus venir. On devait rester en Angleterre, attendre et regarder les infos. C'était très étrange, mais nous sommes là maintenant.
Pour Louisa, Benjamin, Raphaël et Édouard, la vie peut enfin reprendre presque normalement. Et première chose à faire, sauter dans la piscine.
Reportage France Bleu, Périgord.
La météo, avec Pavillon France. La marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et Sébastien Léas, il y a de l'orage dans l'air.
Cet après-midi, les conditions sont très instables sur le centre-est avec des averses, des orages localement forts et même de la grêle en Auvergne-Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Sur le reste du pays, le temps est plus calme mais souvent nuageux. Entre l'Aquitaine, le Berry et la Champagne-Ardenne et de la Bretagne au Hauts-de-France, quelques passages pluvieux peuvent traverser le ciel mais ces pluies et averses sont généralement faibles et de courte durée. Entre la Vendée, la Charente-Maritime, la Touraine, l'Île-de-France, l'Aisne et le Nord, le ciel s'éclaircit. Les périodes ensoleillées restent larges entre la plaine d'Alsace et la Moselle mais c'est sur les régions de la Méditerranée que le ciel est le plus dégagé. Cet après-midi, les températures maximales atteignent 20 degrés à Quimper et Caen, 23 degrés à Arras, Angers et Cognac, 24 degrés pour Paris, Bordeaux et Nevers, 28 degrés à Lyon et Colmar et 31 degrés à Marseille, Montpellier et Bastia. Dans l'arrière-pays provençal et en Corse, le mercure peut même grimper jusqu'à 35-36 degrés. À noter aussi un après-midi venté sur le nord-ouest, notamment sur le Boulonnais.
Sébastien Léas de Météo France.